Voici un autre livre qui a été enregistré par Leloup et Mamichka pour leurs petits-enfants. Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur, S.E. accent aigu G.U.R. Collection Folio Junior, 1980. Première cassette, première face. Chapitre 1er, le départ. L'histoire se passe en Bretagne. Hélène, la maman, prépare le départ de son fils Jean, qui a 14 ans.
Voilà ton paquet presque fini, mon petit Jean. Il ne reste plus à y mettre que tes livres.
Oh, et ce ne sera pas lourd, maman. Les voici. La mère prend les livres que lui présente Jean et lit. Manuel du chrétien, conseils pratiques aux enfants.
Il n'y en a guère, il est vrai, mon ami, mais ils sont bons.
Maman, quand je serai à Paris, je tâcherai de voir le bon prêtre qui a fait ces livres.
Et tu feras bien, mon ami. Il doit être bon. Cela se voit dans ses livres. Et il aime les enfants. Cela se voit bien aussi.
Une fois arrivé à Paris et chez Simon, je n'aurai plus peur.
Il ne faut pas avoir peur non plus sur la route, mon ami. Qu'est-ce qui te ferait du mal? Et pourquoi te causerait-on du chagrin?
C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas bons, maman. Il y en a d'autres qui sont même mauvais.
Je ne dis pas non, mais tu ne seras pas le premier du pays qui aura été chercher ton pain et ta fortune à Paris. Il ne leur est pas arrivé malheur, pas vrai? Le bon Dieu et la Sainte Vierge ne sont-ils pas là pour te protéger?
Aussi, je ne dis pas que j'ai peur, allez. Je dis seulement qu'il y a des gens qui ne sont pas bons. C'est-il pas une vérité, ça?
Oui, oui, tout le monde la connaît, cette vérité. Mais tu ne veux pas pleurer en partant, tout de même. Je ne veux pas que tu pleures.
Soyez tranquille, mère. Je m'en irai bravement, comme mon frère Simon, qui est parti sans seulement tourner la tête pour nous regarder. Voilà que j'ai bientôt 14 ans. Je sais bien ce que c'est que le courage. Allez, je ferai comme Simon.
C'est bien, mon enfant. Tu es un bon et brave garçon. Et le cousin Jeannot, va-t-il venir ce soir ou demain matin?
Je ne sais pas, maman. Je ne l'ai guère vu ces 3 derniers jours.
Va donc voir chez ta tante s'il est prêt pour partir demain de grand matin.
Jean partit lestement. Hélène resta à la porte et le regarda marcher. Quand elle ne le vit plus, elle rentra, joignit les mains avec un geste de désespoir, tomba à genoux et s'écria d'une voix entrecoupée par les larmes.
« Mon enfant, mon petit Jean chéri, lui aussi doit partir, me quitter. Lui aussi va courir 1000 dangers dans ce long voyage. Mon enfant, mon cher enfant. Et je dois lui cacher mon chagrin et mes larmes pour ranimer son courage. Je dois paraître insensible à son absence, quand mon cœur frémit d'inquiétude et de douleur. Pauvre, pauvre enfant, la misère m'oblige à l'envoyer à son frère. Dieu de bonté, protégez-le. Marie, mère de miséricorde, ne l'abandonnez pas, veillez sur lui. »
La pauvre femme pleura quelque temps encore, puis elle se releva, lava ses yeux rougis par les larmes et s'efforça de paraître calme et tranquille pour le retour de Jean. Jean avait marché lestement jusqu'au détour du chemin et tant que sa mère pouvait l'apercevoir. Mais quand il se sentit hors de vue, il s'arrêta, jeta un regard douloureux sur la route qu'il venait de parcourir, sur tous les objets environnants, et il pensa que le lendemain, de grand matin, il passerait par les mêmes endroits, mais pour ne plus les revoir. Et lui aussi pleura. Pauvre mère, se dit-il, elle croit que je la quitte sans regret. Elle n'a ni inquiétude ni chagrin. Ma tranquillité la rassure et soutient son courage. Ce serait mal et cruel à moi de lui laisser voir combien je suis malheureux de la quitter. Et pour si longtemps. Mon bon Dieu, donnez-moi du courage jusqu'à la fin. Ma bonne Sainte Vierge, je me mets sous votre protection. Vous veillerez sur moi et vous me ferez revenir près de maman. Jean essuya ses yeux, chercha à se distraire par la pensée de son frère qu'il aimait tendrement et arriva assez gaiement à la demeure de sa tante Marine. Au moment d'entrer, il s'arrêta effrayé et surpris. Il entendait des cris étouffés, des gémissements, des sanglots. Il poussa vivement la porte. Sa tante était seule et paraissait mécontente, mais ce n'était certainement pas elle qui avait poussé les cris et les gémissements qu'il venait d'entendre.
Te voilà, petit Jean. Que veux-tu ?
Maman m'a envoyé savoir si Jeannot était prêt pour demain, ma tante, et s'il allait venir à la maison ce soir ou demain de grand matin pour partir ensemble.
Je ne peux pas venir à bout de ce garçon-là. Il est là qui hurle depuis une heure. Il ne veut pas m'obéir. Je lui ai dit plus de 10 fois d'aller te rejoindre chez ta mère. Il ne bouge pas plus qu'une pierre. L'entends-tu gémir et pleurer ?
Où est-il donc, ma tante ?
Il est dehors, derrière la maison. Va le trouver, mon petit Jean, et vois si tu peux l'emmener.
Jean sortit, fit le tour de la maison, ne vit personne, n'entendit plus rien, il appela. Jeannot ! Mais Jeannot ne répondit pas. Il rentra une seconde fois chez sa tante.
Eh bien, l'as-tu décidé à te suivre ? Il est calmé, car je n'entends plus rien.
Je ne l'ai pas vu, ma tante. J'ai regardé de tous les côtés, mais je ne l'ai pas trouvé.
Tiens, où s'est-il donc caché ?
La tante sortit elle-même, fit le tour de la maison, appela.
Jeannot, Jeannot !
Et comme Jean, ne trouva personne.
Se serait-il sauvé par hasard pour ne pas t'accompagner demain ?
Jean frémit un instant à la pensée de devoir faire seul un si long voyage et d'entrer seul dans Paris, la grande ville. Si grande, avait écrit son frère, qu'il ne pouvait pas en faire le tour dans une seule journée. Mais il se rassura bien vite et résolut de le retrouver quand il devrait chercher toute la nuit. Lui et sa tante continuèrent leur recherche sans plus de succès.
Mauvais garçon, détestable enfant, si tu pars sans lui, mon petit Jean, et qu'il me revienne après ton départ, je ne le garderai pas, il peut en être bien sûr.
Où le mettriez-vous donc, ma tante ?
Je le donnerai à ta mère.
Oh, ma tante, ma pauvre maman qui ne peut pas me garder, moi, son enfant.
Eh bien, n'est-elle pas comme moi la tante de ce Jeannot, la sœur de sa mère ? Chacun à son tour. Voilà bientôt 3 ans que je l'ai, il m'a assez ennuyée. Autour de ta mère, elle s'en fera obéir mieux que moi.
Pendant que sa tante parlait, Jean, qui furetait partout, eut l'idée de regarder dans une vieille niche à chiens et il vit Jeannot blotti tout au fond. « le voilà !» s'écria Jean. « Voyons, Jeannot, viens puisque te voilà trouvé. » Jeannot ne bougeait pas.
« Attends, je vais l'aider à sortir de sa cachette !»
dit la tante enchantée de la découverte de Jean. Se baissant, elle saisit les jambes de Jeannot et tira jusqu'à ce qu'elle l'eût ramené au grand jour. À peine Jeannot fut-il dehors qu'il recommença ses cris et ses gémissements. Voyons, Jeannot, sois raisonnable. Je pars comme toi. Est-ce que je crie, est-ce que je pleure comme toi? Puisqu'il faut partir, à quoi ça sert de pleurer? Que fais-tu de bon ici? Rien du tout. Et à Paris, nous allons retrouver Simon. Et nous aurons du pain et du fricot. Et il nous trouvera de l'ouvrage pour que nous ne soyons pas des fainéants, des propres à rien. Et ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons la moitié du pain de maman et de ma tante. Tu vois bien? Sois gentil. Dis adieu à ma tante et viens avec moi. Le voisin Grégoire a donné à maman une bonne galette et un pot de cidre pour nous faire un bon dîner. Et puis Daniel nous a donné un lapin qu'il venait de tuer. Le visage de Jeannot s'anima, ses larmes se tarirent, et il s'approcha de son cousin en disant
« Je veux bien venir avec toi, moi !»
La tante profita de cette bonne disposition pour lui donner son petit paquet accroché au bout du bâton de voyage.
« Va, mon garçon ! Que Dieu te conduise et te ramène les poches bien remplies de pièces blanches. Tiens, en voilà 2 de 20 sous chacune. C'est monsieur le curé qui me les a donnés pour toi. C'est pour faire le voyage. Adieu, Jeannot. Adieu, petit Jean.
Nous serons bien heureux, va. D'abord, nous ferons comme nous voudrons. Personne pour nous contrarier.
Ma tante Hélène, elle te contrarie pas trop, toi. Mais ma tante Marine, est-elle contredisante, exigeante et méchante? Je suis bien content de ne plus l'entendre gronder et crier après moi.
Écoute, Jeannot, tu n'as pas raison de dire que ma tante Marine est méchante. Elle crie après toi un peu trop et trop fort, c'est vrai. Mais aussi, tu la contrariais bien, et puis tu ne lui obéissais pas.
Je crois bien, elle voulait m'envoyer faire des commissions tombées du jour, j'avais peur.
Peur? Peur d'aller à 100 pas chercher du pain ou bien d'aller au bout du jardin chercher du bois?
Écoute donc, moi je n'aime pas sortir seul à la nuit, c'est plus fort que moi, j'ai peur.
Et pourquoi pleurais-tu tout à l'heure, puisque tu es content de t'en aller? Et pourquoi t'étais-tu si bien caché que c'est par pur hasard que je t'ai trouvé?
Parce que j'ai peur de ce que je ne connais pas, moi. J'ai peur de ce grand Paris.
Oh, ben, si t'as peur de tout, il n'y a plus de plaisir. Puisque tu dis toi-même que tu étais mal chez ma tante et que tu es content de t'en aller.
C'est égal. J'aime mieux être mal au pays et savoir comment et pourquoi je suis mal que de courir les grandes routes et de ne pas savoir où je vais et avec qui et comment je dois souffrir.
Que tu es nigo, va. Pourquoi penses-tu avoir à souffrir?
Parce que quoi qu'on fasse et où qu'on aille, avec qui qu'on vive, on souffre toujours. Moi, je le sais bien, tiens.
Alors, t'es plus savant que moi. J'ai du bon dans ma vie, moi. Je suis plus souvent heureux que malheureux, content que mécontent, et je me sens du courage pour la route et pour Paris.
Je crois bien. T'as une maman, toi. Moi, je n'ai qu'une tante.
Raison de plus pour que ce soit moi qui pleure en quittant maman, et que ce soit toi qui ris, puisque ta tante ne te tient pas au cœur. Mais tu grognes et pleures toujours, toi. Entre les deux, j'aime mieux rire que pleurer. Jeannot ne répondit que par un soupir. Jean ne dit plus rien. Ils marchèrent en silence et ils arrivèrent à la porte d'Hélène. En l'ouvrant, Jeannot se sentit surmonté par une forte odeur de lapin et de galette.
Te voilà enfin de retour, mon petit Jean. Je m'inquiétais de ne pas te voir revenir. Et voici Jeannot que tu me ramènes. Eh bien, quelle figure consternée, mon pauvre Jeannot. Qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. Voyons, parle, n'aie pas peur.
Il n'a rien du tout, maman, que du chagrin de partir. Et pourtant, il disait lui-même tout à l'heure que ça ne le chagrinait pas de quitter ma tante Marine. Alors, pourquoi qu'il pleure?
Pourquoi pleures-tu? Et devant un lapin qui cuit et une galette qui chauffe. C'est-il raisonnable, Jeannot? Voyons, plus de ça. Et venez tous deux m'aider à préparer le souper. Et un fameux souper.
Et le dernier que je ferai ici, ma tante?
Le dernier, laisse donc. Vous reviendrez tous deux avec des galettes et des lapins plein vos poches. Et tu en mangeras chez moi avec mon petit Jean. Il est courageux, lui. Regarde sa bonne figure réjouie. Tiens, tu as les yeux rouges, petit Jean. Qu'est-ce que tu as donc? Une bête entrée dans l'œil?
Jean regarda sa mère. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il voulut sourire et parler, mais le sourire était une grimace et la voix ne pouvait pas sortir du gosier. Sa mère se pencha vers lui, l'embrassa, se détourna et sortit pour aller chercher du bois, dit-elle. Quand elle rentra, sa bouche souriait, mais ses yeux avaient pleuré. Ils s'arrêtèrent un instant seulement, avec douleur et inquiétude, sur le visage de son enfant. Le petit Jean l'examinait aussi avec tristesse. Leur regard se rencontra. Tous deux comprirent la peine qu'ils ressentaient, l'effort qu'ils faisaient pour la dissimuler et la nécessité de se donner mutuellement du courage. « Le bon Dieu est bon, maman, il nous protégera, » dit Jean avec émotion. Et quel bonheur que vous m'ayez appris à écrire. Je vous écrirai toutes les fois que j'aurai de quoi acheter un timbre.
Et moi, mon petit Jean, monsieur le curé m'a promis un timbre-poste tous les mois. En attendant, voici notre lapin cuit à point, qui ne demande qu'à être mangé.
Les enfants ne se le firent pas répéter. Ils s'assirent sur des escabeaux, chacun prit un débris de plat ou de terrine, ouvrit son couteau et attendit en passant sa langue sur ses lèvres qu'Hélène eût coupé le lapin et eût donné à chacun sa part. Pendant un quart d'heure, on n'entendit pas d'autre bruit dans la salle du festin que celui des mâchoires qui broyaient leur nourriture, des couteaux qui glissaient sur les débris d'assiettes, du cidre qui passait du broc dans le verre unique servant à tour de rôle à la mère et aux enfants. Après le lapin, vint la galette, mais les appétits devenaient plus modérés. La conversation recommença, lente d'abord, puis animée ensuite. « Fameux lapin !» dit Jean, avalant la dernière bouchée.
« Quel dommage qu'il n'en reste plus, hein ?»
Et avec quel plaisir vous mangerez demain ce qui en reste, dit Hélène en souriant.
Ce qui en reste, comment maman, il en reste?
Je crois bien qu'il en reste, et un bon morceau, les deux cuisses, une pour chacun de vous.
Mais comment se fait-il? Vous n'en avez donc pas mangé, maman?
Si fait, mon ami, pas si bête que de ne pas goûter un pareil morceau.
Elle disait vrai, elle en avait réellement goûté car elle s'était servi la tête et les pattes. Jean voulut encore lui faire expliquer quelle était la portion du lapin qu'elle avait mangée, mais elle l'interrompit.
« Assez mangé et assez parlé mangeaille, mes enfants. À présent, rangeons tout et préparons le coucher. Ce ne sera pas long. Jameau couchera avec toi dans ton lit, mon petit Jean. Avant de commencer notre nuit, enfants, allons faire une petite prière dans notre chère église. Nous demanderons au bon Dieu à notre bonne mère de bénir notre voyage. »
« Et puis nous irons dire adieu à monsieur le curé, maman. »
Oui, mon ami, c'est une bonne idée que tu as là, et qui me fait plaisir.
Le jour commençait à baisser, mais il n'avait pas loin à aller. L'église et le presbytère, la maison du curé, étaient à 100 pas. Ils marchèrent tous les trois en silence. La mère se sentait le cœur brisé du départ de son enfant. Jean s'affligeait de la solitude de sa mère, et Jeannot songeait avec effroi au danger du voyage et au tumulte de Paris. Ils arrivèrent devant l'église. La porte était ouverte. Hélène entra, suivie des enfants, et tous trois se mirent à genoux devant l'autel de la Sainte Vierge. Hélène et Jean priaient et pleuraient, mais tout bas, en silence, afin d'avoir l'air calme et content. Jeannot soupirait et demandait du pain et un voyage heureux, suivi d'une heureuse arrivée chez Simon. Pendant que la mère priait, elle se sentit serrer doucement le bras et une voix enfantine lui dire tout bas
« Assez, maman, assez, j'ai faim !»
Hélène se retourna vivement et vit une petite fille. L'obscurité croissante l'empêcha de distinguer ses traits. Elle se pencha vers elle.
« Je ne suis pas ta maman, ma petite !»
La petite fille recula avec frayeur et se mit à crier
« Maman, maman, au secours !»
Jean et Jeannot se levèrent fort surpris, presque effrayée. Hélène prit la petite fille par la main et ils sortirent tous de l'église.
« Où est ta maman, ma chère petite? Je vais te ramener à elle. »« Je ne sais pas, elle était là. »« Sais-tu où elle est allée? Je ne sais pas, elle m'a dit « Attends-moi. » »« J'attendais. »« Elle est peut-être chez monsieur le curé. Allons l'y chercher. »
La petite fille se laissa conduire. En 2 minutes, ils furent chez monsieur le curé, qui interrogea Hélène sur la petite fille qu'elle amenait.
« Je ne sais pas qui elle est, monsieur le curé. Je viens de la trouver dans l'église. Elle cherchait sa maman que je pensais trouver chez vous. »«
Je n'ai vu personne. C'est singulier tout de même. Comment t'appelles-tu, ma petite ? »
ajouta-t-il en caressant la joue de la petite.
« J'ai faim, je voudrais manger. »
Le curé alla chercher du pain, de la confiture et un verre de cidre. La petite mangea et but avec avidité. Pendant qu'elle se rassasiait, Hélène expliquait au curé qu'elle était venue lui demander une dernière bénédiction pour le voyage qu'allaient entreprendre les enfants.
« Quand donc partent-ils ? »
« Demain matin, de bonne heure, monsieur le curé. »«
Demain déjà ? Je vous bénis de tout cœur et du fond du cœur, mes enfants. N'oubliez pas de prier le bon Dieu et la Sainte Vierge de vous venir en aide
dans tous vos embarras, dans vos privations, dans vos dangers, dans vos peines. Ce sont vos plus sûrs et vos plus puissants protecteurs. Et quant à cette petite mère Hélène, emmenez-la chez vous jusqu'à ce que sa mère revienne la chercher. Je vous l'enverrai si elle vient chez moi. Et vous, mes enfants, continua-t-il en ouvrant un tiroir, voici un souvenir de moi qui vous sera une protection pendant votre voyage et pendant votre vie. Il retira du tiroir deux cordons noirs avec des médailles de la Sainte Vierge et les passa au cou de Jean et de Jeannot, qui le reçurent à genoux et baisèrent la main du bon curé. La petite fille avait fini de manger. Elle recommença à demander sa maman.
« Maman ! Maman ! »
Hélène l'emmena après avoir pris congé de monsieur le curé. Jean et Jeannot la suivirent. Hélène espérait trouver la mère de la petite aux environs de l'église, devant laquelle ils devaient repasser pour rentrer chez eux. Mais ni dans l'église, ni alentour de l'église, elle ne vit personne qui réclama l'enfant. La petite pleurait.
Ah,
Hélène soupirait.
Que vais-je faire de cet enfant ? Je n'ai pas les moyens de la garder. Je ne me suis pas séparée de mon pauvre petit Jean pour prendre la charge d'une étrangère. Mais je suis bien sotte de m'inquiéter. Le bon Dieu me l'a remise entre les mains. Le bon Dieu me donnera de quoi la nourrir si sa mère ne vient pas la rechercher.
Rassurée par cette pensée, Hélène ne s'en inquiéta plus. Elle la coucha au pied de son lit, la couvrit de quelques vieilles hardes. Le printemps était avancé, on était au mois de juin. Il faisait beau et chaud. Les petits garçons se couchèrent. Jeannot s'établit dans le lit de son cousin et Jean s'étendit près de lui. « C'est notre dernière nuit heureuse, maman, » dit Jean en l'embrassant avant de se coucher.
« Non, mon enfant, pas la dernière. Laissons marcher le temps qui passe bien vite et nous nous retrouverons. Dors, mon petit Jean. Il faudra se lever de bonne heure demain. »
La petite fille dormait déjà. Jeannot s'endormait. Jean fut endormi peu d'instants après. La mère seule veilla, pleura et pria. Chapitre 2. La rencontre. Le lendemain, au petit jour, Hélène se leva, fit deux petits paquets de provisions, les enveloppa avec le linge et les vêtements des enfants et s'occupa de leur déjeuner. Au lieu de pain sec, qui était leur déjeuner accoutumé, elle y ajouta une tasse de lait chaud. Aussi, quand ils furent éveillés, lavés et habillés, ce repas splendide dissipa la tristesse de Jean et les inquiétudes de Jeannot. La petite fille dormait encore. Le moment de la séparation arriva. Hélène embrassa 10 fois, 100 fois son cher petit Jean. Elle embrassa Jeannot, les bénit tous les deux et fit voir à Jean plusieurs pièces d'argent qui se trouvaient dans la poche de sa veste.
Ce sont les braves gens, nos bons amis de Quérentré, K-E accent aigu, R-A-N-T-R-E accent aigu, qui t'ont fait ce petit magot pour reconnaître les petits services que tu leur as rendus, mon petit Jean. Monsieur le curé y a mis aussi sa pièce.
Jean voulut remercier, mais les paroles ne sortaient pas de son gosier. Il embrassa sa mère plus étroitement encore, sanglota un instant, s'arracha de ses bras, essuya ses yeux, et se mit en route comme son frère, le sourire sur les lèvres et sans tourner la tête pour jeter un dernier regard sur sa mère et sur sa demeure. « Je comprends, se dit-il, pourquoi Simon marchait si vite et ne se retournait pas pour nous regarder et nous sourire. » Il pleurait et il voulait cacher ses larmes à maman. « Pauvre mère, elle ne pleure pas. Elle croit que je ne pleure pas non plus, que j'ai du courage, que j'ai le cœur joyeux, tout comme pour Simon. C'est mieux comme ça. Le courage des autres vous en donne. Je serais triste et malheureux si je pensais que maman avait du chagrin de mon départ. » Elle croit que je serai heureux loin d'elle. Calme, gai même, c'est possible. Mais heureux, non. Sa tendresse et ses baisers me manqueront trop. Pendant que Jean marchait au pas accéléré, qu'il réfléchissait, qu'il se donnait du courage et qu'il s'éloignait rapidement de tout ce que son cœur aimait et regrettait, Jeannot le suivait avec peine, pleurnichait, appelait Jean qui ne l'entendait pas, tremblait de rester en arrière, et se désolait de quitter une famille qu'il n'aimait pas une patrie qu'il ne regrettait pas, pour aller dans une ville qu'il craignait à cause de son étendue, près d'un cousin qu'il connaissait peu et qu'il n'aimait guère.
« Je suis sûr que Simon ne va pas vouloir s'occuper de moi, pensa-t-il. Il ne songera qu'à Jean. Il ne se rendra utile qu'à Jean, et moi je resterai dans un coin, sans que personne veuille bien se charger de me trouver du travail. Que je suis donc malheureux, et j'ai toujours été malheureux. À 2 ans, je perds papa en Algérie. À 10 ans, je perds maman. C'est ma tante qui me prend chez elle, la plus grondeuse, la plus maussade de toutes mes tantes. Et ne voilà-t-il pas à présent qu'elle m'envoie me perdre à Paris au lieu de me garder chez elle ? Jean est bien plus heureux, lui. Il est toujours gai, toujours content, tout le monde l'aime. Chacun lui dit un mot aimable. Et moi, personne ne me regarde seulement. Et quand par hasard on me parle, c'est pour m'appeler pleurard, maussade, ennuyeux et d'autres mots aussi peu aimables. Et on veut que je sois gai. Il y a de quoi, vraiment. Ma bourse est bien garnie. 20 francs que le curé m'a donné. Et Jean qui ne sait pas seulement son compte, tellement il en a de l'argent. Tout le monde y a mis quelque chose, a dit ma tante. Je suis bien malheureux, rien ne me réussit.
Tout en réfléchissant et en s'affligeant, Jeannot avait ralenti le pas sans y songer. Quand le souvenir de sa position lui revint, il leva les yeux, regarda devant, derrière, à droite, à gauche, il ne vit plus son cousin Jean. La frayeur qu'il ressentit fut si vive que ses jambes tremblèrent sous lui. Il fut obligé de s'arrêter et il n'eut même pas la force d'appeler. Après quelques instants de cette grande émotion, il retrouva l'usage de ses jambes et il se mit à courir pour rattraper Jean. La route était étroite, bordée de taillis. Elle serpentait beaucoup dans le bois. Jean pouvait donc ne pas être très éloigné sans que Jeannot pût l'apercevoir. Dans un des tournants du chemin, il vit confusément une petite chapelle et il allait la dépasser, toujours courant, soufflant et suant, lorsqu'il s'entendit appeler. Il reconnut la voix de Jean, s'arrêta joyeux, mais surpris car il ne le voyait pas. « Jeannot !» répétait la voix de Jean. « Viens, je suis ici !»«
Où donc es-tu? Je te vois pas !»«
Dans la chapelle de Notre-Dame Consolatrice. »«
Tiens, » dit Jeannot en entrant. « Que fais-tu donc là ?»«
Je prie, » répondit Jean. « J'ai prié, je me sens consolé. Je sens comme si Notre-Dame envoyait à maman des consolations et du bonheur. Je vois des traces de larmes dans tes yeux, pauvre Jeannot. Viens prier, tu seras consolé et fortifié comme moi. »«
Pour qui veux-tu que je prie ? Je n'ai pas de mère. »«
Prie pour ta tante qui t'a gardé 3 ans. »«
Bon, ma tante, ce n'est pas la peine. »
« Ce n'est pas bien ce que tu dis là, Jeannot. Prie alors pour toi-même si tu ne veux pas prier pour les autres. »«
Pour moi, c'est bien inutile. Je suis malheureux et quoi que je fasse, je serai toujours malheureux. D'ailleurs, tout m'est égal. »«
Tu n'es malheureux que parce que tu veux l'être. Excepté que j'ai maman et que tu as ma tante, nous sommes absolument de même pour tout. Je me trouve heureux et toi, tu te plains de tout. »
« Nous ne sommes pas de même. Ainsi tu as je ne sais combien d'argent, et moi je n'ai que 2 francs. »«
Si ton malheur ne tient qu'à ça, je vais bien vite te le faire passer, car je vais partager avec toi. »«
Non, non, je ne dis pas cela. Ce n'est pas ce que je te demande, ni ce que je voulais. »«
Mais moi, c'est ce que je demande, et c'est ce que je veux. Nous faisons route ensemble, nous arriverons ensemble, et nous resterons ensemble. Il est juste que nous profitions ensemble de la bonté de nos amis. »
Fin de la première piste de la première cassette, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur, page 23.